Des archéologues ont fait une découverte de taille dans le centre-ville de Montréal où se déroulent des travaux. En fait, c'est les travaux de la promenade Fleuve-Montagne qui se déroulent là-bas. Et en creusant à l'angle des rues Peel et Sherbrooke, ben, les archéologues ont découvert ce qu'ils croient être un village qui démontrerait en fait que la présence autochtone sur l'île de Montréal remonte à autour de 1400 ans. Pour en parler, l'archéologue Hendrik van Gizegum est avec nous. Bonjour, M. Gizegum.
Oui, bonjour.
Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé au coin de Peel et de Sherbrooke?
Ça fait déjà une couple d'années qu'il y a des travaux dans ce coin-là. Et puis, ce qui a été trouvé, c'est des restes assez importants de la présence amérindienne sur l'île de Montréal, dans ce coin-là, sur le plateau que forme la rue Sherbrooke. Et il y a donc des milliers d'artefacts. C'est pas entièrement surprenant parce qu'on savait que l'île de Montréal était fréquentée par les Amérindiens depuis longtemps, qu'il y avait des gros villages permanents. Et c'est les restes d'un de ces grands villages permanents qui datent de la fin de la préhistoire qu'on a trouvé en place sous la rue Sherbrooke. Donc, ce qui est surprenant, c'est moins la découverte des artefacts que le fait qu'il y ait eu des sols en place qui ont échappé au fil des décennies à toutes les perturbations liées à l'enfouissement de services publics et des choses comme ça. Donc, c'est une découverte très importante et assez exceptionnelle pour notre compréhension de la présence autochtone à Montréal, sur l'île de Montréal.
Bon, les trucs qu'on a trouvés, il y a quoi? À peu près 1200 tessons de poterie, notamment, qui ont été retrouvés. Puis, moi, à mon œil de profane, là, ça semble en relatif bon état. On voit même des espèces de détails dessus, de décoration de poterie. Ça remonte à quand, ces objets-là? Ils ont été conçus quand?
Ça remonte à ce qu'on appelle le sylvicole supérieur, donc qui date à peu près de l'an 1000 jusqu'au 16e siècle. C'est une époque où est-ce que la poterie semble avoir eu une importance sociale et économique très importante dans l'identité des groupes. Et donc, on s'est engagé, c'était des potières à l'époque, donc c'est les femmes qui faisaient la poterie, ont beaucoup investi dans la décoration des vases. Donc, c'est pour ça qu'ils sont, d'une part, très diagnostiques. On peut suivre l'évolution des décorations. Ouais. Donc, il y a une chronologie liée à la stylistique des vases qui nous permet de dater ces vases-là de manière relativement précise aux différentes époques de la préhistoire. Ils sont bien conservés, d'une part, parce que donc ces sols-là n'ont pas été trop brassés par les activités de développement urbain, et d'autre part, parce que c'était de la poterie qui était d'assez bonne qualité que, sur l'échelle de quelques siècles, elle survit aux intempéries, aux phénomènes naturels qui se passent dans le sol, l'acidité, le gel, le dégel, des choses comme ça.
Alors, quelle nation autochtone était présente à cette époque-là? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce que c'est des nations qu'on connaît aujourd'hui?
Bien, il y a plusieurs avis là-dessus. Évidemment, les groupes qui sont présents à Montréal ou dans la région de Montréal, en fait, dans toute la vallée du Saint-Laurent, vers la fin de la préhistoire, on ne les connaît que par quelques phrases écrites par Jacques Cartier lors de son passage ici en 1535. Et donc, il a décrit le village d'Hochelaga. On ne les connaît que à partir des restes archéologiques en ce moment. Donc, les archéologues ont convenu d'appeler ces groupes-là les Iroquois du Saint-Laurent. On savait que c'était des groupes de langue iroquoienne. Et qu'archéologiquement, il y a une certaine, un genre d'uniformité culturelle telle que représentée par la culture matérielle dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, les archéologues se sont entendus pour appeler ces groupes-là Iroquois du Saint-Laurent. Évidemment, il y a des revendications de la part de différents groupes autochtones vivants qui donc s'identifient culturellement avec ce groupe archéologique-là. Donc, il faut faire une distinction entre les groupes historiques ethnographiques et les groupes que l'on ne connaît strictement qu'à partir de leurs restes matériels.
Bon, vous avez parlé du village d'Hochelaga, là, dont Jacques Cartier parle en 1535. On ne sait pas exactement où il est. Est-ce que ça pourrait être à cet emplacement-là?
C'est peu probable parce que la poterie et les dates au radiocarbone qui ont été faites par les archéologues qui ont travaillé sur ce chantier-là convergent vers une date qui tourne davantage autour de l'an 1400. Et donc, on sait que ces grands villages sédentaires-là avaient tendance à se déplacer quelques fois par siècle, aux 25, 30 ans, parce que, bon, on avait épuisé la faune locale, on avait épuisé les sols, devenaient moins riches, et donc on déplaçait transitionnellement les villages. Mais probablement qu'on restait dans des zones familières où on connaissait les ressources locales, et
Ouais.
ainsi de suite. Donc, on ne se déplaçait pas nécessairement très, très loin. Et donc, c'est possible que le flanc sud du Mont-Royal ait été habité pendant plusieurs siècles, mais que les établissements distincts changeaient de place. Donc, c'est pas impossible qu'on trouve des occupations liées à différentes époques dans des
Ouais.
endroits relativement rapprochés.
Mais il y a
Et
quand
donc,
même une découverte assez intéressante parce qu'on dit également qu'il y a différents objets qui ont été trouvés là, pas juste des poteries, mais on parle entre autres d'une dent de béluga. Comment on peut expliquer qu'une dent de béluga se retrouve aussi haut dans le Saint-Laurent alors que, évidemment, à cette époque-là, j'ai l'impression que les bélugas étaient à peu près à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui là.
exactement. On sait que les Iroquoiens du Saint-Laurent fréquentaient le fleuve dans toute sa longueur jusqu'en Gaspésie. Donc, il y avait des villages, grosso modo, jusqu'en aval de Québec, la ville de Québec
Ouais.
actuelle, mais qu'il y avait des expéditions qui se faisaient pour aller exploiter la faune marine plus en aval vers le golfe du Saint-Laurent, vers la Gaspésie. Et donc, ça peut être des habitants de la région de Montréal qui se sont rendus directement, ou plus probablement, ce sont des échanges qui ont amené des ressources du golfe du Saint-Laurent vers la région de Montréal à l'époque. Et ça, c'est pas entièrement surprenant parce qu'on sait que les Autochtones à l'époque s'engageaient dans des échanges à très longue distance de matières premières et de matières de prestige et des choses comme ça.
Il y a également une sépulture qui a été découverte. Ça, c'est quand même assez rare aussi qu'on découvre une sépulture. C'est-à-dire qu'une sépulture, on entend par là quelqu'un qui avait été inhumé, qui y avait eu une espèce de cérémonial, on l'avait enterré, c'est ça?
Exact. Probablement, je connais peu le contexte parce que je dois préciser que je ne suis pas impliqué dans ce projet de recherche-là personnellement, mais c'est probablement effectivement un individu qu'on a inhumé, peut-être avec quelques offrandes, qui est une pratique relativement commune à l'époque.
Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait en temps normal quand on découvre des sépultures comme celle-là? J'imagine qu'on doit les rendre à la communauté de qui on pense ils proviennent.
On a développé au fil des décennies des protocoles liés à la découverte de restes humains,
Ouais.
que ce soit des restes historiques ou qui datent de l'époque de la préhistoire. Et dans ces cas-là où des sépultures préhistoriques sont découvertes, ben il y a immédiatement des collaborations qui se négocient avec les
Ouais.
communautés autochtones. Dans la région de Montréal, c'est de facto les communautés Mohawk qui sont impliquées.
Ouais. Est-ce que, parce que vous avez parlé d'une des choses quand même caractéristiques intéressantes, c'est que cette partie-là de sol, quand même, à un endroit qui est assez central à Montréal, au coin de Peel puis Sherbrooke, le sol n'avait pas été remué. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça où on pourrait faire des découvertes aussi importantes?
Faudrait voir évidemment la progression du tissu urbain qui s'est faite de manière quand même assez rapide dans la région disons, au sud du Vieux-Montréal, dans cette région-là, le long des flancs du Mont-Royal. Et dans les années, bon, 1900, au début du 20e siècle, on avait peu d'égards pour les restes archéologiques, les
Ouais.
sols anciens, et donc on a enfoui beaucoup de choses liées au service public, les canalisations, l'électricité éventuellement, des choses comme ça. Donc, on sait que les sols naturels dans la région de Montréal ont été très, très assurés par le développement.
Ouais.
Mais il reste probablement autour de vieux immeubles, par exemple, des sols en place qui n'ont pas encore été découverts. Je pense, par exemple, le grand séminaire des Sulpiciens sur la rue Sherbrooke dans
Ouais.
l'Ouest, il y a un grand parc à côté qui, selon notre perception, n'a jamais fait l'objet de développement très important. Donc, dans des zones comme ça, il pourrait y avoir des potentiels très intéressants pour des occupations anciennes.
En tout cas, la découverte est quand même très intéressante et permet d'en savoir un petit peu plus sur le mode de vie de ces gens-là à l'époque, hein?
Tout à fait. Je crois qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir au niveau de la culture matérielle elle-même. Donc, on vient de l'extraire du sol au cours des dernières années et il y a beaucoup d'analyses qui vont venir pour justement mieux connaître le mode de vie. Parce que la découverte est une chose, mais ensuite, il y a tout un ensemble d'analyses ultérieures qui vont vraiment venir solidifier la connaissance liée à ces découvertes-là.
Monsieur Van Gezegum, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant.
Ça me fait plaisir. Je vous remercie.
Au revoir. Hendrik Van Gezegum est archéologue. Il nous parlait de cette découverte importante qui a été faite au coin de Peel et de Sherbrooke, des restes ou en fait des éléments archéologiques qui remonteraient à l'année 1400 autour, là, qui ont été découverts là-bas au cours de travaux de voirie.